concurrent, disons-le, c'est pas la mercerie du coin ou l'autre concurrent qui fait le même métier que nous. C'est pas ça. Notre concurrent, c'est Amazon, quelque part, si je regarde à long terme. Donc, en fait, moi, plus je vais me différencier d'Amazon, plus je pourrai continuer à me développer. Et comment je vais me différencier d'Amazon? C'est pas nécessairement d'avoir le produit moins cher à 3 centimes. C'est d'amener du service. Que lui, a priori, alors sauf s'il change de modèle, mais enfin, en tout cas, comme c'est pas un modèle très physique, il ne pourra jamais faire. Donc, pour nous, tous ces moments de lien, d'échange, tous ces moments de partage sont essentiels.
Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute.
Depuis 2010, l'enseigne dont nous allons parler aujourd'hui fait le pari de la modernité pour répondre à une tendance sociétale de fond. Le do-it-yourself dans la confection de ses vêtements. J'accueille aujourd'hui Bernard Cherki, le directeur général et président du directoire de Mondial Tissu. Bonjour Bernard.
Bonjour
Claire. Et bienvenue sur les voies de la franchise.
Merci de m'accueillir.
C'est avec plaisir. Eh ben, je ne sais pas si tous les auditeurs vous connaissent, alors je vous propose de vous présenter.
Bien, alors donc je m'appelle, comme vous l'avez dit, Bernard Cherki, donc je dirige le groupe Mondial Tissu depuis une petite dizaine d'années. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai un parcours à la fois où j'ai travaillé beaucoup dans les ressources humaines et dans le retail. Donc, en fait, c'était mes deux passions. Voilà.
Oui, vous avez fait un parcours très retail. C'était un choix au départ.
Non, alors justement, vous savez, souvent, c'est un peu un hasard, un mélange de hasard et de déterminisme, on va dire. Bon, en fait, mon point de départ, c'était plutôt travailler dans les ressources humaines, mais j'ai travaillé pour une enseigne de retail dans les ressources humaines, puisque j'ai rejoint le groupe Galeries Lafayette. Je travaillais dans la DRH du BHV. Donc, j'étais à la fois, au départ, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, en fait, en faisant des ressources humaines, je me suis pris de passion pour le retail, en réalité, et tout en adorant le métier des ressources humaines. Donc, ça m'a permis d'après mon expérience au sein du groupe Galeries Lafayette, de créer une direction des ressources humaines au sein du groupe Franprix Leader Price, le groupe Casino. Donc, j'y ai sévi pendant presque 10 ans. Et ce qui est extraordinaire quand on fait les ressources humaines dans ces métiers, c'est qu'on est très proche du business, qu'on est très proche de la réalité des gens, hein, tout simplement. Et après avoir quitté, et quand j'ai quitté le groupe Casino, là, c'est aussi un petit peu un hasard. Mon ancien patron, propriétaire de Franprix Leader Price, rachetait une petite boîte qui était en grande difficulté à l'époque, qui s'appelait Mondial Tissu. Et il m'avait demandé de le rejoindre un mois ou deux pour lui donner un peu de conseils, pour essayer de réfléchir avec lui à cette reprise. Et puis, alors, sans faire de jeu de mots facile, de fil en aiguille. je l'ai pas préparé celle-là, hein. Elle est venue comme ça. Donc, de fil en aiguille, ben, je l'ai accompagné. Et puis, j'ai repris la direction générale de cette boîte. Et en fait, quand on a fait des ressources humaines, diriger une boîte, c'est assez naturel parce qu'en fait, les problématiques que j'ai à gérer sont quand même souvent des problématiques humaines. En tous les cas, c'est ma conception des choses. Et bien sûr, je me suis passionné, et ça, je pourrais vous en dire un mot, pour le métier du retail. Voilà.
Oui, effectivement, dans les groupes que vous nous avez évoqués, les ressources humaines sont très variées parce que vous avez des profils de salariés qui sont très variés. Donc, effectivement, ça permet de couvrir l'ensemble des métiers qui comprennent ces réseaux de magasins.
Absolument, absolument. Qui est très caractéristique pour moi, pourquoi maintenant je me suis passionné par le retail en général, hein, c'est parce que justement, il y a un lien avec les ressources humaines, c'est que c'est un métier très concret, le retail. On prend des décisions rapides, ça a des effets assez rapides, et moi, ça me correspond assez bien. On est vraiment avec les gens, quoi. Alors, bien sûr, il n'y a pas que le retail, hein, mais on est vraiment avec les gens, c'est-à-dire qu'on est avec des consommateurs, on voit leurs réactions, on voit un petit peu comment ça fonctionne, on n'est pas dans le monde de la pure abstraction, tout ça est très rapide. Et troisièmement, il n'y a pas de beaux projets retail sans des beaux projets de RH. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un accompagnement humain. Et il y a des qualités humaines qu'il faut avoir dans les groupes de retail qui sont déterminantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très beau projet, un très beau modèle, comme on dit aujourd'hui, mais si on n'a pas cet accompagnement humain, cette préoccupation-là, c'est difficile, voire pour moi impossible. Donc voilà, pour moi, c'est le à la fois un secteur qui bouge, qui est en, enfin, on réinvente tout le temps le métier, et particulièrement pour Mondial, si on va en parler plus dans le détail, mais également avec des équipes, avec des gens qui sont vraiment la clé de voûte de tout.
Voilà. Oui, c'est vrai que sans humain, il n'y a pas de retail, c'est sûr. Alors justement, on va venir un peu à Mondial Tissu. Comme vous le disiez, quand vous avez repris Mondial Tissu, l'entreprise était plutôt vieillissante. Qu'est-ce qui, alors, c'est l'opportunité d'une rencontre, de quelqu'un qui vous a dit « viens avec moi sur ce projet » et c'est souvent comme ça d'ailleurs, mais qu'est-ce qui vous a fait rester après ces 2 mois de test? Qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure?
Alors, je vais un petit peu élargir parce que au-delà du jeu, je vais vous expliquer moi, ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette entreprise a été reprise. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et moi, là-dedans, j'ai ma petite part. En fait, donc, on part d'un entrepreneur qui s'appelle Denis Lévy, qui était donc l'ancien propriétaire, comme je le disais, des marques Franprix Leader Price, qui avait cédé ses activités au groupe Casino. Et en fait, on lui propose le groupe Mondial Tissu. Alors, pour être très clair, qui était en quasi-dépôt de bilan, qui était sur un marché dit très vieillissant, qui était en grande difficulté. Mais ce qui a attiré et ce qui a fait l'élément déclencheur pour cet entrepreneur, actionnaire, c'est 3 choses. C'est d'abord que on avait un réseau, quand même un maillage national, donc c'est quand même intéressant d'avoir un groupe de retail avec toute une en termes de communication, en termes d'organisation, c'est toujours intéressant d'avoir un maillage national. Deuxièmement, et là on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est une véritable passion des équipes, alors que nous on savait que l'entreprise était en grande difficulté, on savait que l'entreprise risquait même, de mourir, on en était quasiment là. Et quand on voyait la passion des équipes autour de leur métier, autour de leur savoir, autour de leur communauté, etc., c'était totalement magique. Et puis, de manière un peu plus, on va dire, stratégique, je pense qu'il y a eu l'intuition de cet entrepreneur qui a eu vraiment une bonne vision, c'est de se dire que d'un marché un peu ringard et un peu vieillissant, il y avait de quoi réinventer quelque chose. Et après, on va en parler, tout ce qui est, aujourd'hui, on appelle ça « do it yourself », mais au fond, toute cette mode, et qui n'est pas une mode, en fait, qui est un mouvement très, très profond, du faire soi-même, je pense qu'il avait senti le fait qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça, à réinventer. Mais bien sûr, il fallait rénover une entreprise, donc il y avait quand même un petit peu de travail pour en arriver là. Voilà. Et donc moi là-dedans, je l'ai accompagné dès le début, on a tout mis en place ensemble. Au début, on a travaillé plutôt les fondements. Et on a fait ce qu'on savait faire en tant que retailer. On a créé une véritable supply chain. On a pris des entrepôts de 10 000 m². Il n'y avait pas d'entrepôt dans l'entreprise. On a créé une véritable direction marketing. Il n'y avait pas de direction marketing. On a complètement structuré les achats. Bon, enfin, on a fait les fondations. Parce qu'on s'est dit, ça sert à rien de commencer à dire, on va faire de l'image, du truc, on va tout changer. Déjà, il fallait que ce soit solide. Et ça aussi, on l'a pu le faire parce que, je le dis, on a un actionnaire familial avec une révision. On n'est pas dans du fonds de pension qui doit, au bout d'un an, sortir tel résultat. Bon, même si, bien sûr, on avait très envie de réussir. Et puis voilà. Donc, il y a eu... Et puis surtout, ce que j'oublie, ce qui est essentiel, et j'ai vraiment... Enfin, je l'oublie, c'est on a recréé une âme dans cette entreprise. C'est-à-dire que on a un peu rassuré les équipes. On leur a dit justement qu'on avait un projet commun, une vision à partager, qu'il allait avoir, fallait du temps, mais fallait également, on attendait d'eux un retour, de l'énergie, du positif, etc. Donc il y a eu tout un projet humain aussi de fédération autour de cette nouvelle vision qui a été mise en œuvre. Voilà. Et puis au bout de, je vais être très clair, au bout de 2-3 ans, on avait fait un gros travail, on avait les équipes très bien, mais disons les choses, ça ne marchait toujours pas. C'est-à-dire que bien beau, on se disait, mais on a fait tout ce qu'il faut, mais ça marche pas. Ça marche pas. Bon. Et après, on s'est quand même.
Ah, c'est pas toujours comme on veut, oui. Ça va pas toujours dans le sens que l'on veut, oui.
Mais on y croyait toujours. On y croyait toujours parce qu'il y avait des équipes, parce qu'il y avait une énergie absolument incroyable. On y croyait. Bon. Et là, on a vraiment travaillé, mais d'arrache-pied avec les équipes du comité de direction et différentes personnes de l'entreprise pour vraiment définir ce qu'on appelle, dans notre jargon un petit peu marketeux, une vraie plateforme de marque. C'est-à-dire qu'au fond, on s'est vraiment repositionné en disant, voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment être? Et disons-le, qu'est-ce qu'on veut être? Donc, ça nous a permis de travailler tous les aspects de l'entreprise, tous les aspects de l'entreprise. On a quasiment tout revu, sauf une chose, le nom. Oui. Ça avait été un débat, vous voyez, à l'époque, parce que bon, le nom, il nous paraissait un petit peu aussi vieillot. Et en fait, il faut savoir que Mondial Tissu, bon, à l'époque, c'était déjà le leader en France. On avait quand même déjà à l'époque 70 magasins. Et il faut savoir que, autant, bon, je vais être un peu cash, quand on est journaliste parisien, Mondial Tissu, c'était un petit peu loin et un peu rendez-vous en terre inconnue. Autant quand on habite Aurillac, quand on a son Mondial Tissu, on habite Montauban, on a son Mondial Tissu. On est un peu le, si vous voulez, pour les Parisiens, ça s'appelle le marché Saint-Pierre. Si vous voulez, c'est un nom, quoi. C'est une marque locale. Donc on s'est dit quand même, c'est quand même dommage. Même si le nom, on va essayer plutôt d'en faire d'un truc un petit peu vieillot, on va en faire au contraire un truc un peu vintage. Mais c'est dommage de le perdre. Mais sinon tout le reste, on l'a retravaillé. Donc sur l'identité de la marque, sur la stratégie, sur le positionnement, sur l'organisation, on a tout refait. Et au fond, qu'est-ce que ça a dit ce travail collectif de ensemble? C'est qu'au fond, on est leader, on l'était déjà avant et on l'est encore. Mais être leader en soi, ça sert à rien. Si c'est juste de dire je suis leader et je peux le dire dans les dîners mondains, franchement, ça n'apporte rien. Mais on était un leader par défaut, si vous voulez. Et au fond, on s'est dit, mais non, en tant que leader, c'est à nous de refaire le marché. On voit bien qu'on est sur un marché, si on ne fait rien, qui est un peu déclinant. On voit bien qu'on nous disait tout le temps, mais hein, vous êtes fous, travailler avec des couturières, c'est fini, les gens n'apprennent plus, c'est un truc de grand-mère, etc. Et on s'est dit, c'est à nous de réinventer ce marché. Donc, on a vraiment retravaillé là-dessus, et là, avec des actions très concrètes, qui se traduisent par le fait qu'on a totalement modernisé notre offre, déjà parce qu'à la base, c'est quand même des produits, hein, donc toute notre offre autour du tissu, de la mercerie, a été totalement modernisée, avec des véritables acheteurs et chefs de marché qui vont aller chercher les tendances, comme toutes les entreprises de retail modernes, alors qu'avant, c'était plutôt un modèle opportuniste, ça veut dire on avait des coûts, on avait des lots, on avait des choses comme ça de produits. C'était un peu les fournisseurs avant qui faisaient notre offre, sauf qu'on a repris les choses. On a repris les choses en main. Donc, on a retravaillé là-dessus. Deuxièmement, bon, je vous l'ai déjà dit, on a réorganisé toute l'entreprise avec une logistique très, très moderne. On a beaucoup investi dans ce domaine. Et puis, troisièmement, on a vraiment assumé on s'est dit, au fond, que avec notre clientèle actuelle, elle est super de clientèle, mais elle va pas être suffisante pour nous développer. Donc, on a élargi notre clientèle. On a, entre guillemets, essayé d'évangéliser notre métier autour d'un métier très
affinitaire. Comment on évangélise ?
Ben, on évangélise.
Parce que ça, c'est tout le monde aimerait bien évangéliser et réussir son évangélisation. Ouais. Donc,
Je pense que s'il y a un mot quand même à dire qui nous a beaucoup aidé, c'est quand même le digital. Là, il faut le dire. On a été opportunistes. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive, il n'y avait pas d'internet ni rien. Enfin, il y avait un site, mais qui était juste avec les adresses des magasins, mais il n'y avait rien du tout. Donc, on a vraiment orienté ça vers un marketing affinitaire, avec la même chose en magasin et bien sûr sur le digital. Ça s'est traduit donc par, encore une fois, une offre totalement rajeunie, etc. Deuxièmement, on a énormément travaillé avec ce qu'on appelle la data. On a mis en place un programme de fidélité extrêmement développé. On a 2 millions de porteurs de cartes Mondial Tissu aujourd'hui.
D'accord.
Donc, on s'adresse beaucoup à eux. On a donc développé, bien sûr, tout ce qui est formation, cours, tutoriel, aussi bien en digital que en présentiel. L'année dernière, même en présentiel, comme on dit aujourd'hui maintenant, on a formé 20 000 personnes dans nos magasins. Donc, on est devenu vraiment des gens de service.
Ah oui.
Henri. Oui. On a fait en sorte de créer du lien entre les gens, une espèce de fierté. Dans nos slogans publicitaires, il y a « fier de mes 10 doigts ». Vous voyez, on essaie de redonner une certaine fierté autour de ça.
Oui.
On a également surfé, disons-le, sur une vague un peu plus responsable, écolo, entre guillemets. On aime bien faire soi-même. On aime bien passer du temps, on aime bien partager des choses. Et là, bien sûr, on est, vous voyez venir, Instagram, je partage mes réalisations, Facebook, les bonnes idées, etc. Donc, il y a eu tout un écosystème qu'on a mis en place à un moment où, effectivement, il y avait une véritable demande autour du faire soi-même. Faire soi-même, même qui dépasse, qu'on appelle le do it yourself, qui dépasse même la couture. C'est-à-dire, vous prenez tous les secteurs d'activité, vous prenez la cuisine, vous prenez tous les secteurs. C'est sans faire des grands mots de sociologue, c'est presque anthropologique. C'est-à-dire que c'est vraiment une tendance de fond aujourd'hui autour du je fais plus économique, je fais attention à la planète, je fais attention à moi, je me réapproprie un petit peu des choses. par rapport
tout à fait, et c'est en plus c'est très présent dans les jeunes générations, donc à partir des trentenaires, etc. Donc ça vous a permis de ce fait de rajeunir votre clientèle de façon presque automatique, je dirais.
Parce que tous les ans on gagne quasiment on a l'ancienneté, enfin l'âge moyen pardon de nos clients baisse quasiment de un an. Et c'est intéressant parce que on avait fait une enquête par OpinionWay, je crois, enfin peu importe, sur les Français et la couture. Alors d'abord, on avait découvert une chose, c'est que vous avez aujourd'hui, enfin à l'époque, c'était il y a 3-4 ans, mais peu importe, il y avait à ce moment-là 41% des Français qui déclarent savoir coudre. Bon, donc déjà, on a quand même un potentiel de marché.
Oui, j'aurais pas cru, oui.
Alors effectivement, ça va de je fais une reprise d'un bouton à je fais la plus belle robe du monde. Mais le plus intéressant là-dedans, c'était que on s'était rendu compte que, alors effectivement, quand on l'analysait par tranche d'âge, savez-vous coudre ? Alors effectivement, la tranche 55-75 savait bien coudre. Plutôt même 60-75 savait bien coudre. Bon, donc ça baissait, et on voyait que les 15-25 ans savaient davantage coudre que les 35-45 ans. Donc on est vraiment dans un mouvement de fond. Et là, c'était lié au travail qu'on a fait, mais il n'y a pas que nous, bien sûr, c'est un travail de fond. Donc, ça a été vraiment une tendance. Enfin, c'est une véritable tendance. C'est très courant quand je vais dans un magasin, c'est assez rigolo. On voit tout le temps, le mercredi, on voit la grand-mère qui est avec sa fille et sa petite-fille. Et elles sont toutes les trois à regarder les tissus, à trouver des idées, à essayer de s'inspirer, de donner des conseils. On est dans quelque chose, on a essayé de donner ce goût de faire soi-même, et c'est vraiment ce qu'on appelle, après dans nos jargons, un marketing très affinitaire, en fait, qu'on a développé. Et tout ça a fait que les choses ont pu reprendre, parce que on avait aussi réinvesti dans une boîte, on avait des fondamentaux qui étaient bons et qui étaient organisés et structurés. Et ça nous a donc permis, à quelques années après, de nous redévelopper. Voilà.
Oui, c'est. Alors justement, vous êtes en plein développement. Quand vous êtes arrivé, il y avait 70 magasins, et là, vous allez ouvrir votre 100e magasin.
Roulement.
Le roulement de tambour en mars, on a le 100e magasin mondial tissu, et roulement de tambour en plus. Je vous laisse en définir la primeur de l'annonce de ce 100e magasin.
Alors je vois que vous faites un super teasing. Alors je vais maintenir un tout petit peu le teasing pour vous annoncer la primeur de cette ouverture. Juste un petit mot. En effet, si je reprends un petit peu l'historique, en 2016, on a bien vu qu'on commençait à avoir un modèle qui commençait à fonctionner. Il y avait une vraie demande, etc. Et comme que ce soit notre actionnaire principal ou moi-même, on a plutôt un tempérament d'entrepreneur, de développeur. On s'est dit, on va y aller. Et on va y aller, c'est-à-dire, on va redévelopper l'entreprise. Donc, dans notre métier, redévelopper l'entreprise, entre autres, ça veut dire ouvrir des magasins. Bon. Et là, je le dis aussi, parce que je n'oublie pas quand même que je parle aux voix de la franchise, qu'on va développer ça en créant un véritable département franchise. On n'avait pas de franchise avant 2016. Et quelqu'un qu'on connaissait dans notre réseau, avec nous, a pris le risque de créer sa première franchise. Donc là aussi, c'est des hasards, c'est des rencontres, des choses comme ça, qui a très bien marché dès le début. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. Et donc, on a énormément développé l'entreprise par la franchise. Aujourd'hui, on a 15 magasins qui sont en franchise, mais également, pas que. Hein, c'est-à-dire, c'est pas uniquement un développement franchise, on va dire, opportuniste. Quand on a un bon emplacement, effectivement, on va privilégier un franchisé. Mais si on n'en a pas, on l'ouvre nous-mêmes, quoi, si on a les moyens. Voilà. Alors, ce qui fait que ça a été un développement qu'on a relancé avec notre apogée, ça a été 2020. Alors, c'est assez paradoxal parce que c'est une année quand même qui a été très particulière pour la Terre entière. Et pour autant, ça a été l'année où on a ouvert le plus de magasins. On a ouvert 15 magasins rien qu'en 2020. Et on va en ouvrir à peu près presque autant normalement en 2021. Et donc, toutes ces ouvertures nous font arriver à un chiffre. Alors, c'est un symbole, hein, on va arriver au 100e magasin. C'est vrai que c'est une certaine fierté, hein, disons-le, d'arriver à ce résultat-là. Et ce 100e magasin va être ouvert dans une ville où on n'avait pas de magasin, qui s'appelle Paris. Voilà. Donc, en fait, et on va ouvrir dans une rue qui s'appelle la rue du Commerce, la bien nommée pour ceux qui voilà. la connaissent, qui est une rue très très emblématique et très très commerçante par son nom et par sa réalité. Donc c'est quelque chose de très fort pour nous parce que jusqu'à présent, on n'avait pas accès. Notre modèle, disons-le, ne nous permettait pas d'ouvrir à Paris dans de vraies bonnes conditions. Hein. Le but, c'était pas d'ouvrir pour ouvrir à Paris. Et aujourd'hui, on a eu une opportunité. Hein. On n'a pas dit qu'on veut ouvrir un centième pour être à Paris. C'était pas une fin en soi. C'est un peu un hasard aussi. Mais bon, des fois, les hasards, c'est comme ça. Ce hasard fait qu'on va ouvrir notre 100e magasin. On va fêter ça. Malheureusement, on pourra pas vraiment faire la fête physique. Mais
oui.
Je vous assure que dès qu'on le pourra, on la fera, parce qu'avec 100 magasins, et ce magasin à Paris, en plus, comme on fête nos 40 ans cette année, on va faire des belles fêtes, je vous assure, dès qu'on le pourra. Voilà. Donc, on va ouvrir ce magasin à Paris, qui est quand même important, parce que c'est un accès à une nouvelle clientèle, avec un concept qui est le concept Mondial Tissu, mais avec bien sûr quelques adaptations parisienne, lié au fait que c'est quand même un modèle un petit peu plus petit que nos magasins de périphérie.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous aviez plutôt un modèle périurbain avec très grandes surfaces. Voilà. Donc là, forcément, le modèle doit être un peu différent de par la surface.
Alors, c'est le modèle Mondial Tissu, c'est-à-dire que les gens qui vont aller, on n'a pas changé de modèle, parce qu'on avait créé aussi un modèle qu'on appelle MT City, de 100 mètres carrés. Là, c'est vraiment autre chose. On l'a pas déployé, mais on l'a dans nos cartons. On sait qu'on est prêt à le déployer. Donc là, ça serait vraiment complètement différent. Là, ça reste un modèle Mondial Tissu. Ça veut dire, pour trouver à peu près l'ensemble de votre offre que l'on va trouver, dans un magasin périurbain, en tout cas, dans ce style de taille. Il y aura donc tous les services. Alors, ce sera encore plus axé autour du service. On a réussi à trouver un espace pour faire aussi les cours de couture. Parce que c'est très important à Paris, il y a une demande qui est colossale aujourd'hui.
Ah bah oui.
On aura aussi l'espace de vente de machines à coudre. On aura également, alors ça c'est important aussi dans notre concept, c'est que j'ai beaucoup parlé de faire soi-même le do it yourself, c'est-à-dire que les gens achètent leur tissu, leur mercerie, viennent prendre leurs conseils, viennent apprendre pour faire eux-mêmes. Alors des vêtements ou aussi de la décoration, hein, je précise bien qu'on est sur les deux axes. Oui. Mais on a également développé depuis maintenant 10 ans. Une vraie offre de sur-mesure pour la partie décoration. C'est-à-dire que, par exemple, Claire, je sais pas quels sont vos talents en matière de couture, mais vous pouvez me...
Assez faible, je fais partie de la génération voilà. d'avant, la nouvelle.
Je sais bien, je vois bien.
Je suis juste l'intermédiaire entre celle qui n'a pas appris.
Non, à qui on dit, non, coudre, c'est pour les... C'était une autre époque, nous, on est libérés de tout ça, ouais. Voilà.
Donc, voilà, c'est ça. Voilà.
Écoutez, si je sais, vous pourrez venir dans notre magasin, vous pouvez très bien dire
volontiers.
Mais j'ai envie d'avoir vraiment le tissu que j'ai vraiment envie d'avoir, pas le truc tout fait qu'on trouve partout. Je veux vraiment avoir la finition que j'ai, le petit détail qui fait que ma finition elle sera exactement comme je veux. Et ça, nous, on peut le faire pour vous. C'est-à-dire que c'est vous qui réalisez un peu ce que vous voulez faire. Et après, on a des services de confection qui réalisent ça. Et en plus, comme on c'est à des tarifs tout à fait accessibles. Donc ça, c'est un axe qu'on va pas mal développer sur Paris parce que je pense qu'il y aura une demande assez forte dans ce domaine-là, quoi. Voilà.
Et alors, les cours de couture, ils sont payants, j'imagine, ouais. dans vos magasins. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi des lieux où on peut venir faire, parce qu'on n'a pas la place chez soi, un peu dans le modèle le Roi Merlin, où j'ai l'atelier où je peux venir fabriquer mes rideaux parce que chez moi, j'ai pas la place.
Alors, deux choses. Effectivement, donc les ateliers sont payants, mais en ce qui concerne notre modèle, c'est vraiment juste du coup de revient. C'est pas notre métier en tant que tel de donner des cours de couture, mais en fait, si, ça le devient. Mais en tous les cas, pour nous, ce qui est le plus important, on parlait tout à l'heure d'évangéliser, c'est de permettre, en tous les cas, à des gens d'apprendre. Et donc, on a des ateliers pour des débutants, pour des semi-débutants, pour des gens plus confirmés. On organise même des anniversaires pour des jeunes. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on organise autour de ça. Et effectivement, on est en train de faire un test actuellement. Alors, je pense pas qu'on le fera pour l'instant à Paris, parce que comme on va ouvrir déjà, il va falloir qu'on teste notre cœur de métier. Mais on fait un test de machine à coudre en libre service. Parce qu'en fait, encore une fois, je le dis souvent à mes équipes, notre concurrent à nous, notre Oui, notre concurrent, disons-le, c'est pas la mercerie du coin ou l'autre concurrent qui fait le même métier que nous. C'est pas ça. Notre concurrent, c'est Amazon, quelque part, si je regarde à long terme. Donc, en fait, moi, plus je vais me différencier d'Amazon, plus je pourrai continuer à me développer. Et comment je vais me différencier d'Amazon? C'est pas nécessairement d'avoir le produit moins cher à 3 centimes. C'est d'amener du service. Que lui, a priori, alors sauf s'il change de modèle, mais enfin, en tout cas, comme c'est pas un modèle très physique, il ne pourra jamais faire. Donc, pour nous, tous ces moments de lien, d'échange, tous ces moments de partage sont essentiels. Et donc, tout ça pour dire qu'on va créer des espaces en libre service où les gens vont pouvoir venir avec de très belles machines à coudre, où ils pourront venir à deux copines qui ont envie de passer une petite heure pour échanger et puis en même temps faire une petite réalisation, ou bénéficier de conseils d'une personne parce que c'est la communauté, c'est un petit peu comme les réseaux sociaux, hein, souvent c'est, c'est les réseaux sociaux qui régulent. Et là, c'est... donc on va le faire on va le faire très rapidement dans deux magasins en test, et puis c'est une tendance ça encore, et je suis convaincu que dans quelques mois ou années, tous nos magasins auront cette possibilité d'avoir ces échanges. Encore une fois, le magasin, pour nous, c'est vraiment un lieu de partage, un lieu de vie, un lieu de complément même par rapport au site Internet. Aujourd'hui, on sait, on parle beaucoup de cross-canal. Oui. J'explique souvent ça à mes amis franchisés, que c'est très important. La partie digitale est fondamentale, même si, au bout du compte, les gens, ils viennent en magasin, mais pas que, ils achètent aussi sur Internet. Mais au-delà de ça, même ceux qui sont en magasin, aujourd'hui, ils rentrent dans le cadre d'un parcours. Et la partie digitale est absolument essentielle. On a à peu près plus de 2/3 des gens qui, quand ils achètent chez nous en magasin, sont déjà allés voir sur le site. Donc, les gens en préparent.
Ça ne m'étonne pas. Je suis beaucoup mes nièces sur Instagram qui sont, elles, effectivement, très couseuses pour leurs enfants. Et on a l'impression, effectivement, que... Il y a même des marques, je suis en train de réaliser le modèle d'une marque, ou enfin elles associent ça à des modèles, elles reçoivent, parce qu'elles sont souvent en province, elles n'ont pas forcément un magasin à côté, elles reçoivent le modèle, elles sont, et effectivement tout ça se personnalise beaucoup, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de liens avec d'autres Instagrammeuses, mais aussi avec des marques qui se développent autour de modèles.
Absolument. Alors nous on a des partenariats aussi parfois avec des stylistes, avec des gens qui innovent. Mais de toute façon, à la limite, au-delà de ça, encore une fois, vous l'avez très bien dit, hein, les gens vont, que ce soit encore une fois pour leur décoration d'intérieur ou pour leurs vêtements, vont aller chercher les tendances. Tout le monde regarde ce qui se fait, mais la grande nouveauté, c'est que je peux le faire moi-même. Voilà. Oui. C'est ça le gros truc, j'ai fait même. Et en plus, dans des conditions accessibles en termes de prix, hein, parce que nous, en tant que généralistes du métier, on a des tissus avec des bons rapports qualité-prix. Hein. On n'est pas dans des tissus, dans des quartiers chics de Paris. Ça reste extrêmement accessible. Puisqu'on est généraliste, on est vraiment le bon généraliste, le bon rapport qualité-prix du métier, quoi, en réalité.
Le marché Saint-Pierre de toute la France, quoi.
Voilà, exactement. C'est exactement ça. Avec peut-être une différence, parce que le marché Saint-Pierre, bon, c'est mythique, hein, c'est extraordinaire. J'encourage les gens à aller visiter, parce qu'il faut y aller là-bas, dans le 18e, mais une fois qu'on...
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier de Paris où il y a beaucoup, beaucoup de ventes de tissus. Voilà.
Donc c'est tout à fait mythique, c'est extraordinaire, mais c'est quand même un modèle qui reste le modèle ancien. Ça veut dire que ça s'adresse beaucoup plus à des expertes. C'est-à-dire que l'experte qui coud depuis 30 ans et qui connaît tout ça par cœur, elle va se régaler au marché Saint-Pierre. Par contre, ça s'adresse plus difficilement à des gens qui veulent s'y mettre. Il n'y a pas toute cette partie service, couture, digital. Enfin, c'est beaucoup moins développé. Mais bon, ça reste extraordinaire, quoi, c'est sûr.
Alors, on va vous laisser profiter de cette 100e ouverture, mais comme vous disiez, 2021, ça se prolonge aussi avec beaucoup d'autres ouvertures. C'est un axe que vous sentez très fort, ce développement, et vous avez fixé un objectif, un maximum au-delà duquel vous pensez qu'il y aura... Est-ce qu'il y a une dimension de ville dans laquelle... Mondial Tissu peut s'installer ou pas?
Alors, dans notre modèle actuel, comme on dit, on sait qu'on a la capacité d'ouvrir en France une cinquantaine de magasins. sans changer notre modèle, on a cette capacité. Parce qu'on reste, vous l'avez raison de le dire, sur un petit marché, hein, ça reste quand même un petit marché. Donc on a la possibilité d'ouvrir à peu près une cinquantaine de magasins. Donc c'est un peu l'axe qu'on s'est donné pour les cinq prochaines années. C'est donc d'arriver à 150 magasins d'ici cinq ans. Deuxièmement, on va regarder au-delà des frontières.
Parce oui.
qu'à un moment donné, c'est un peu ce que font toutes les boîtes. Comme on a un modèle qui fonctionne, après il faut s'adapter et tout. Alors on a fait un premier test en Allemagne il y a à peu près un an. Bon, je vous cache pas que le corona et c'est un peu compliqué pour tirer des enseignements, mais enfin on a un super magasin avec des résultats prometteurs et donc ça pourra donner lieu à développement en fonction. Une fois que j'espère qu'on aura retrouvé. Enfin là concrètement en Allemagne les magasins sont fermés depuis 3 mois. Hein. C'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment.
Et la tendance du do it yourself, elle est présente dans toute l'Europe.
Alors ça c'est intéressant votre question parce que on n'en a pas trop parlé, mais la pandémie a été un accélérateur en réalité d'une tendance qui existait avant.
C'est-à-dire c'est comme pas dans beaucoup de secteurs, ça a été un accélérateur de beaucoup de secteurs.
C'est pas la pandémie qui a fait que on a eu des résultats pas mal, c'est que ça a accéléré les phénomènes. Et
oui.
Pour vous dire un truc amusant. Quand on a réouvert nos magasins au mois d'avril, enfin nous on a ouvert un petit peu plus tôt, peu importe, parce qu'on les avait fermés comme tout le monde, et quand on a réouvert, on va dire au mois de mai, on a eu une demande de machines à coudre phénoménale. C'est-à-dire qu'on a eu une demande fois 7 par rapport à...
Ah oui, en effet, oui.
Fois 7, bon. Et on ne pouvait même plus, il n'y en avait plus. Mais il n'y en avait plus, c'était pas chez Mondial Tissu, c'était pas en France, c'était pas en Europe, c'était dans le monde entier. C'est-à-dire que le monde entier n'avait plus de machines à coudre. Donc, c'est pour vous dire...
Un autre phénomène, il n'y avait plus non plus de rasoir.
Voilà.
Parce que...
Des vélos, des choses comme ça. Quoi. Oui, du reste, c'est pour ça que j'ai une barbe maintenant. Mais c'est un véritable phénomène. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est totalement général, quoi, anthropologique, encore une fois, pour employer des mots savants. Alors... pour quand même reprendre la question du développement, donc l'Allemagne, on est en train de regarder la Belgique, donc on est en train d'étudier des dossiers. Donc il y a l'aspect international. Bon, deuxièmement, les perspectives, c'est effectivement, on a travaillé sur un concept qui serait complémentaire de pur centre-ville sur une plus petite surface. Donc là, on a le modèle. Maintenant, il faut qu'on trouve la fenêtre de tir pour le développer. Donc là, qui serait sur à peu près un modèle autour de 100-150 mètres carrés. Là, qui serait là pour le coup différent. Enfin, il y aurait toujours l'ADN de la marque, comme on dit, mais avec là pour le coup beaucoup d'adaptations, notamment avec le digital, qui va beaucoup nous aider dans ce domaine. Donc là, il y a cet aspect-là. Troisièmement, il y a tout ce qui est
Et ce modèle, vous le développeriez en franchise essentiellement, peut-être ? Non, vous n'avez pas fait de choix particulier.
Nous, la franchise, on n'en a pas trop parlé, mais notre approche de la franchise, c'est pas une approche, on va dire, financière pure, en disant, on n'a pas à investir, c'est d'autres qui prennent le risque. C'est pas du tout notre approche. Pour nous, la franchise, c'est un moyen, des fois, effectivement, d'accéder à certaines villes vers lesquelles on serait peut-être pas allé, mais parce que le franchisé, lui, a la connaissance de son, encore une fois, je ne fais pas de jeu de mots, mais de son tissu local. Et donc, il peut bien s'adapter. Deuxièmement, pour nous, les franchisés, parce que moi, je viens d'un univers, il y a beaucoup de franchisés dans le retail alimentaire. C'est aussi une manière de nous faire grandir parce que les gens ont des exigences, ont des demandes. Ils investissent eux-mêmes. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils en demandent à juste niveau de leur investissement. Donc c'est beaucoup ça. Mais maintenant c'est pas une fin en soi. Ça veut dire que, comme je vous le disais, là par exemple, on est en train de chercher à ouvrir un magasin à Toulouse, en toute transparence, parce que c'était une des seules grandes villes de France où on n'était pas présent pour différentes raisons. J'ai peut-être une opportunité. Je vais pas me dire si j'ai pas de franchisé, j'ouvre pas. Non.
Oui oui.
On ouvrira quand même. Donc c'est que nous on croit en notre marque, on veut la développer. Maintenant s'il y a des gens qui croient également en cette marque et que nous on estime qu'ils sont capables d'être avec nous parce qu'ils en ont les qualités et on partage les mêmes valeurs, dans ce cas-là on va en franchise. Donc pour répondre à votre question, le centre-ville, pas nécessairement en franchise, mais pourquoi pas.
Mais pourquoi pas, un mixte, toujours mixte en général, ouais, chez vous.
Exactement.
Et donc voilà, c'était cette deuxième axe de développement et effectivement ces modèles un peu différents.
Alors, et puis troisième, autre axe, c'est bien sûr la partie digitale. Aujourd'hui, quand on a démarré, on a démarré le e-commerce récemment, ça fait que 5 ans. Et pour vous dire, quand on a démarré, d'abord, tout le monde nous disait également, après nous avoir dit la couture c'est fini, on nous a dit le tissu ça ne se vend pas par internet. Vous voyez dans les espèces de phrases toutes faites comme ça qu'on a pu entendre. Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 10%. 10% de notre chiffre d'affaires est vendu par internet. Donc c'est quand même des axes, des niveaux assez impressionnants et assez proches des retailers, surtout quand on vend de la matière brute. C'est-à-dire que quand vous achetez un iPhone, vous savez ce que vous achetez comme produit. C'est un produit précis et vous l'achetez. Enfin, je dis iPhone, peu importe. Mais quand vous achetez une marque précise, enfin un produit fini précis, vous le comparez, vous allez regarder dans le magasin physique et puis vous allez retourner chez vous parfois pour l'acheter sur internet. Nous, c'est quand même un pari quand on achète un tissu, donc d'où l'importance d'investir énormément sur notre site internet pour donner le maximum d'informations, tant de contenu que d'impressions, de visuels. On investit beaucoup d'argent dans la photo, dans les impressions, dans ce genre de choses, pour que les gens puissent se projeter facilement là-dessus. Il y a aussi des gens qui vont aussi voir en magasin, qui se réassurent, enfin tout existe. Mais en tout cas, il y a la partie digitale qui est un vrai axe, et puis il y a ce qu'on appelle dans notre jargon le B2B. C'est-à-dire que on pense que on a déjà du reste commencé à faire des petits tests. On a par exemple créé des corners de mercerie qu'on a mis dans des supermarchés. Donc pour l'instant c'est des tests. On en a dans une vingtaine de magasins des petits supermarchés parisiens en l'occurrence. C'est quand on n'est pas de magasin à Paris, on s'était dit ça peut être intéressant. Et donc on est en pleine
là aussi c'est une tendance intéressante hein. Ces corners dans les supermarchés, c'est une tendance intéressante qui se développe de plus en plus,
absolument. Et donc ça on voudrait on a des échanges avec d'autres retailers, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le retail qui ont ce genre de réflexion, qui souhaitent élargir leur offre, etc. Et nous, notre savoir-faire, si vous voulez, c'est que on sait, au-delà de l'aspect financier, on achète des grosses quantités de produits, etc. On a un savoir-faire pour savoir ce qui se vend, ce qu'il faut avoir, l'essentiel. Enfin, c'est plus un savoir-faire en réalité. Donc, on est en train de réfléchir à des partenariats avec des enseignes comme celle-ci. Et puis on a de belles perspectives pour les 5-10 prochaines années dans notre entreprise.
Je vois ça. Alors, avant d'arriver au terme de cette émission, je voulais juste aborder une question sur les datas, parce que j'imagine, comme vous disiez très justement, on sait ce qui est vendu, ce qui est recherché, etc. J'imagine que chez vous, ça représente aussi une donnée importante. Comment vous analysez en fait toutes ces données de consommation de vos clients?
Comme je vous le disais, on a déjà créé le premier niveau. C'est que on a aujourd'hui 2 millions de nos clients que l'on connaît, puisqu'ils sont des clients.
Ils sont encartés, oui.
Donc c'est déjà énorme par rapport. On a beaucoup investi là-dessus. Ça nous permet déjà, de leur adresser des messages, déjà dans les opérations promotionnelles, mais de beaucoup communiquer avec ces personnes, avec des petites choses comme leur anniversaire. On leur envoie un cadeau ou une possibilité d'avoir une promotion. Donc, on a tout un travail au niveau de notre équipe marketing et tout ce qui est CRM pour accompagner toutes nos opérations. On a ce qu'on appelle un plan d'action commercial qui est très important. Et donc, on informe énormément aujourd'hui nos clients par rapport à ça. Mais là où on va aller de plus en plus loin, c'est d'analyser beaucoup plus précisément leur type de vente.
Oui.
Leur proposer des solutions complémentaires. Donc on est à fond là-dedans. Et effectivement, c'est un enjeu qui est absolument essentiel pour ces prochaines années. Alors, c'est un peu cliché aussi de dire ça, mais pour nous, c'est une réalité concrète, puisqu'on a investi en interne dans ce domaine-là, de bien maîtriser ce qu'on appelle la data. Parce que la data, c'est des mots qu'on emploie assez souvent comme ça, mais il faut aussi l'utiliser. C'est bien beau d'avoir plein des tonnes d'informations, mais il faut les utiliser. Donc nous, on les utilise
tout à fait, oui.
Pour
Personnaliser vos approches.
Personnaliser, exactement, personnaliser. L'idée, c'est ça, c'est d'arriver à quelque chose de one-to-one. Et c'est vrai, effectivement, c'est un enjeu extrêmement fort pour Mondial Tissu parce que, étant l'enseigne leader, on va dire l'enseigne numéro un en France qui vend du tissu, le risque que l'on pourrait avoir, c'est de paraître un petit peu comme le gros machin, un peu impersonnel. Donc l'enjeu de la data pour nous est essentiel parce que on va expliquer aux gens que c'est pas parce que on est le premier groupe en France à vendre tout ce qui est autour de la couture, du tissu, de la mercerie, etc., que on n'a pas une connaissance et qu'on n'est pas capable de s'adapter à chaque client. Donc c'est ça la vision qu'on a, c'est d'aller beaucoup plus fin dans la connaissance de nos clients pour leur proposer, les aider, les accompagner. C'est aussi pour ça qu'on a énormément développé la partie service clientèle où on a beaucoup de gens qui nous appellent, on a des chats qui nous permettent également de réguler nos informations. On communique aussi beaucoup avec les réseaux sociaux pour bien personnaliser et humaniser la marque. Donc voilà, il y a tout un enjeu autour de la data qui est très important, mais qui est déjà engagé chez nous, en fait. En réalité, oui. C'est du going. Alors, on fera sûrement mieux dans les prochaines années que maintenant, mais c'est déjà un sujet qu'on a déjà traité et on va continuer à le développer.
Très bien. Eh bien, écoutez, Bernard, merci beaucoup pour cet échange. Oui. Une dernière question que j'aime poser à tous ceux qui passent sur les voies de la franchise est plus personnelle. C'est votre gestion du doute, est-ce que vous avez une routine pour gérer vos doutes?
Bon, alors déjà, j'en ai presque tous les jours.
Oui, ça c'est assez courant, oui.
Ouais. Donc on doit tout le temps prendre des décisions où on est 50-50. Alors, deux choses très différentes. En général, bon, ben, je me lève et je vais marcher, puis je vais parler aux gens autour de moi. Je vais discuter avec les équipes et je vais échanger sur des choses futiles et voilà, ça c'est mon ancien métier de RH qui me le dit. Et sinon, alors ça c'est le côté plus feeling, impression pour me sentir bien et tout, mais sinon je se trouve que je suis également médiateur de formation et là cette formation à la médiation m'a appris alors quelque chose d'assez évident mais qui m'aide aussi dans la gestion pour moi des entreprises, c'est à un moment donné de ramener de la rationalité dans les décisions. Donc une fois que j'ai fait mon petit tour ou que je me suis un petit peu détendu et que j'ai raconté ma vie ou que les gens m'ont raconté la leur, je reviens et j'essaie de mettre le plus de rationalité dans des décisions à prendre. Et donc c'est comme ça que j'essaye de prendre des décisions qui sont parfois bonnes, parfois pas bonnes, mais on fait avec.
Ouais, oui, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur aussi. Absolument. D'avoir parfois effectivement des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes, mais on apprend aussi de ces erreurs. Donc écoutez Bernard, merci beaucoup pour cet échange.
Merci beaucoup.
C'était très très enrichissant et on est ravis que le do it yourself, que le tissu, que tout ça reprenne vie grâce à vous et grâce à toutes celles et à tous ceux qui se sont remis à cette activité. Et c'est une belle dynamique de société.
Merci Claire et à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Vous auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.